RFI
法国国际广播电台。
Bonjour, Monsieur Olivier Picasso. Aujourd'hui, on va parler de cette exposition Revealed. Vous êtes le commissaire de cette exposition. D'abord, pourquoi Revealed?
Eh bien, le titre que j'ai trouvé s'est imposé à moi parce que l'idée était de découvrir les artistes par leurs ateliers. Autrement dit, de pénétrer dans un endroit en général assez méconnu, assez secret, mais qui révèle réellement la personnalité de chaque artiste et qui sans doute révèle un petit peu déjà son style, d'où le titre en anglais « Revealed ».
Si je comprends bien, votre approche n'est pas uniquement regarder les choses, c'est plutôt le chercher.
Je pense que chaque personne qui observera une des 30 photos de l'exposition aura la surprise de découvrir quelque chose. Je pense que le choix qui a été fait dans les archives de Paris Match, qui comprennent des millions de photographies, le but était de réunir des photos qui nous apprennent quelque chose, mais qui peut-être aussi cachent quelque chose. Chaque artiste a sans doute une part de mystère, le mystère de la création et puis le mystère de lui-même.
Mais qu'est-ce que vous avez trouvé des choses en cachette alors ?
D'abord, si l'on doit comparer les photos les unes aux autres, on s'aperçoit que certains artistes se laissent photographier de manière passive. Ils laissent entrer le photographe. D'autres reçoivent, accueillent le photographe et essayent de lui montrer peut-être une partie de la personnalité, peut-être pas tout. Et puis certains sont très à l'aise et ont tout de suite le sens inné de se faire prendre en photo. Et certains vont plus loin, ils se mettent en scène. Donc, l'œil peut chercher dans la photo d'abord des souvenirs, des œuvres que l'on peut reconnaître d'un artiste, que l'on voit immédiatement chez mon grand-père, Pablo Picasso, mais aussi chez Magritte, par exemple, ou pourquoi pas chez Jeff Koons. Et puis, avec d'autres, on est surpris de reconnaître une sorte de mystère, parce que ou bien l'œuvre n'est pas vraiment visible, ou bien elle est en cours de création, et on se demande un petit peu comment ça va se terminer. Et puis pour certains artistes, je pense surtout à Dali par exemple, il y a une mise en scène. Il faut que non seulement au-delà de l'œuvre, au-delà de lui-même qui est construction surréaliste, il y ait aussi dans l'inné même de l'image quelque chose de plus fort qu'une simple photographie.
Dali, c'est un performeur aussi quelque sorte.
Oui, aujourd'hui on dirait que Dali est un performeur, on dirait que ce qu'il fait est une installation, une performance. Lorsqu'il met un rhinocéros dans le cadre de la photo, ça n'est pas banal.
En fait, il est en permanence dans une sorte d'image d'évangélisme de ses idées ou bien d'une croyance, en fait.
Oui, et je pense qu'il y a même une dose de sacré chez certains artistes. Mon grand-père, par exemple, chez Pablo Picasso, on sent bien qu'il a un talent tellement fort que c'est un pouvoir surnaturel et qu'il doit accomplir une mission. Dès l'enfance, il avait le sentiment que ce n'était pas banal d'avoir un tel talent pour le dessin, puis pour la peinture, puis la sculpture, la gravure. Et toute cette énergie, jusqu'à 92 ans quand même, à réaliser des œuvres en totalité, il n'y a pas d'œuvre inachevée, eh bien c'était une forme de sacré. Chez Dali, c'est beaucoup plus intégré. Son rapport au sacré, son rapport à Dieu, son rapport au mystère de la foi, ce que vous appeliez l'évangélisme, c'est quelque chose qui est visible dans sa peinture. On dirait que c'est une crainte ou alors que c'est une consécration.
Mais en même temps, les symboles, des images permanentes dans ces photos où se trouve votre grand-père, Pablo Picasso, c'est la présence féminine.
Ah, il est certain que mon grand-père n'est pas un artiste abstrait. C'est un peintre qui a besoin d'un modèle. Ce modèle, ça peut être un paysage, ça peut être un objet, mais c'est surtout une femme. Et il a une vie sentimentale qui a été, illustrée par des rencontres importantes. Et on voit bien que la vie de l'artiste et la vie de l'homme vont ensemble. À chaque fois qu'une femme entre dans sa vie, ou qu'il la reconnaît peut-être, il y a une nouvelle période artistique qui commence.
Mais surtout, quand il y a une présence féminine, votre grand-père a un constant déformation des formes.
Il y a une interprétation de la réalité, ce que font tous les peintres, quelque part, soit les impressionnistes ou les surréalistes. Chez chez Pablo Picasso, il y a la prise en main de cette présence féminine qui lui sert, elle l'inspire à transformer la réalité, à la sublimer, à la transposer. Donc évidemment, beaucoup de femmes ont eu des résultats assez amusants d'être à la fois brisées, d'être tordues sur la toile, mais en réalité, on les reconnaît. C'est ça qui est incroyable.
Mais vous avez déjà écrit des livres, réalisé des documentaires sur votre grand-père, donc vous le connaissez à peu près par cœur. Mais cette fois-ci, parmi les milliers et milliers de photos en archives de Paris Match, est-ce qu'il y a une présence féminine ou bien un objet qui vous surprend, que vous n'avez jamais vu?
Alors, ce qu'on croit voir dans les ateliers de Pablo Picasso, c'est le chaos, le désordre absolu. Et pourtant, ce n'était pas le cas, car il avait une mémoire exceptionnelle et il savait exactement où il avait posé une peinture, un pinceau, où il avait entreposé une œuvre qui peut-être n'était pas finie. Autrement dit, quelqu'un a parlé du chaos-ordre, c'est-à-dire le chaos et l'ordre, car il savait très bien où se trouvaient les choses. À sa mort, on a trouvé des dizaines de milliers d'œuvres d'art qu'il avait conservées méthodiquement, comme un témoignage de son talent. Mais dans les photos de ses ateliers, je pense que chacune révèle quelque chose, ou bien de son sentiment d'attente, ou de son sentiment d'accomplissement. Alors, mon problème a été de choisir une photo avec une femme. Il fallait que j'essaie d'être juste et très prudent, parce qu'il y a des femmes importantes dans sa vie, Fernande, Eva, Olga, ma grand-mère Marie-Thérèse, mais aussi Dora, Françoise et puis Jacqueline. Alors la photo principale que j'ai choisie, c'est une avec une jeune femme qui s'appelle Sylvette, qu'il avait rencontrée en 1953, juste après sa séparation avec Françoise. Donc, j'ai pas pris de risque parce que elle a dit elle-même qu'elle n'avait été qu'un modèle.
Donc vous avez beaucoup de délicatesse dans votre prudence. Alors.
j'ai surtout essayé de ne pas heurter les uns ou les autres. Bien sûr, plus mon grand-père a vieilli, plus il a été célèbre et reconnu, plus il a accepté les photographes chez lui. Donc il y a des photos évidemment avec Jacqueline, car elle a été, je crois, celle qui a été la plus documentée au niveau de la photographie.
Donc, en tout cas, en sélectionnant une image, pas l'autre image, c'est déjà un parti pris.
C'est un parti pris. Je crois que la mission qu'on m'a confiée, que Sofitel m'a confiée pour cette exposition Revealed, et en quelque sorte la confiance que m'a donnée Paris Match de pouvoir choisir, comme je le voulais, d'abord à partir de 1000 œuvres, 1000 photos de studio, puis ensuite 100 photos d'atelier, pour chercher les 30 œuvres, il a fallu en effet prendre des partis pris.
Mais attendez. Quand vous parlez de parti pris, c'est-à-dire intentionnel, qui est un petit peu décalé de revealed. But revealed, c'est-à-dire quelque chose qui vous surprend. Mais sur votre grand-père, vous n'avez pas parlé des choses qui vous avaient surpris.
Si, alors ce qui est incroyable, c'est que même si j'ai vu beaucoup d'images de mon grand-père, même si j'ai coécrit et coproduit des documentaires de télévision, notamment l'an dernier pour la réouverture du musée Picasso à Paris, j'ai exploré beaucoup d'archives. Donc j'ai revu énormément de choses. Eh bien, il y a toujours une œuvre d'art qu'on ne connaît pas. Il y a toujours une photo qu'on n'a pas vue. Par exemple, eh bien, la photo où il danse dans son atelier avec Jacqueline à la Californie, ça se passe en 1900, vers la fin des années 50. C'est une photo qu'on croit connaître parce que on en a vu déjà une fois dans ce petit pas de danse avec sa femme. Et pourtant, il y a d'autres variantes qui montrent que il y a une spontanéité et en même temps un espèce de don inné pour le photographe. Le photographe arrive, Pablo Picasso ne répète pas. Il ne refait pas deux fois la photo. Il a juste un sens de l'image. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai expliqué à des journalistes que lorsqu'on voit des photos de Keith Haring ou de Jeff Koons, ils sont nés plus tard. Eux, ils savent qu'il y a eu la télévision, la photo, ils savent l'impact de l'image. Donc, avec une sorte de naturel, ils se mettent en scène. Picasso ne s'est pas mis en scène, Picasso s'est simplement laissé prendre en photo.
Mais en tout cas, toutes ces images ont été stockées, conservées chez Paris Match. Donc, quand on ressort ces images, c'est un peu comme un archéologue de dépoussiéreux et puis pour voir qu'est-ce que c'est. Et quand vous regardez toutes ces images, ressort quelque chose, quelle est la ligne conductrice pour composer ces 30 images. Parce que, imagine, il y a des milliers et milliers des images.
Il fallait la diversité et la complémentarité. Autrement dit, il est vrai qu'il y a plusieurs photos de Pablo Picasso dans l'exposition sur ces 30 images parce qu'il est le peintre qui a le plus accepté les photographes. Mais il fallait qu'on ait une image de Matisse parce qu'elle était très rare. C'est un peintre plutôt renfermé, secret, qui accepte de se faire photographier dans son lit car il est malade et il a pris une sorte de bâton avec un pinceau pour continuer à peindre.
C'était assez touchant cette image.
Oui, parce qu'on se dit, mais il devrait peut-être penser à se soigner. Mais pas du tout, il a encore besoin de créer. Et puis il fallait aussi qu'on fasse le lien avec aujourd'hui, c'est-à-dire des artistes contemporains que le monde entier connaît et il fallait montrer qu'il y avait une continuité. Donc cette complémentarité, c'est que tous travaillent dans un lieu personnel de création.
Par exemple, vous avez sélectionné Léopold Lin chez les artistes chinois. Et pourquoi Léopold Lin, pas Ai Weiwei, par exemple?
Peut-être parce que son atelier a disparu. Mais en tout cas, chez le premier, il y a cette volonté de se fondre dans l'œuvre. Et donc, il recrée son studio partout. C'est une nouvelle façon de penser l'intimité. C'est-à-dire que c'est un artiste qui veut à la fois, qui ouvre son atelier à tout le monde, puisqu'il fait partie de l'œuvre, mais qui en même temps n'en a aucun. C'est assez étonnant. Donc, il ne peut exister que s'il est s'il est chez tout le monde. Voilà. C'était intéressant de voir. Mais il y a aussi la volonté d'une mise en scène.
Et vous, vous avez rencontré Léopold Lin, ou vous n'avez connu que par ces images de Paris Match?
Non, je ne le connais que dans ces images. Mais vous savez, peut-être qu'il est dans le studio ici. Peut-être qu'il est caché derrière avec le logo de RFI.
To be revealed.
To be revealed.
Mais il y a une autre question qui est un peu paradoxale entre votre démarche de sélection, les images en soi. Parce que dans les images, on voit votre grand-père et compagnie par des très jolies femmes. Mais quand vous sélectionnez des artistes, il n'y a que des hommes, il n'y a que la présence masculine.
Ah, alors c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, en effet, parce que lorsqu'on explore les images de studio, on s'aperçoit que jusque dans les années 80, presque, l'art est un peu misogyne. C'est-à-dire que on connaît des femmes artistes, mais elles n'ont pas le même statut.
Mais non, il y a Louise Bourgeois.
Voilà, Louise Bourgeois.
Et il y a Cindy Sherman.
Cindy Sherman aujourd'hui, mais sans doute qu'il n'y avait pas de séance de photos dans les archives de Paris Match. Je la connais, Cindy Sherman. Elle aussi, c'est extraordinaire. Mais elle est un petit peu dans une démarche comparable. Elle se confond avec son univers extérieur. C'est peut-être ça la prochaine étape de l'art du 21e siècle. C'est de transposer son atelier partout.
Et aussi, vous avez sélectionné des artistes un peu lointaines, pas dans votre voisinage, par exemple. Au niveau du temps, comme Matisse, c'est un peu lointain. Et au niveau de l'espace, Léopold Lin, c'est un peu lointain. Mais il y a des artistes qui sont juste à côté de Musée Picasso, comme Jean-Michel Ottoniel, et on ne voit pas.
Ce seront les prochains, parce que Jean-Michel Ottoniel est un ami. Dans son cas, lui, il fait partie de l'école de ceux qui ont besoin aujourd'hui d'un studio. Autrement dit, avec des designers, des peintres, des ingénieurs. Donc, son art, sa création se rapproche de celle de Jeff Koons. Donc, nous avions un représentant qui osait montrer son équipe, et montrer qu'il travaille un peu comme Michel-Ange et la Chapelle Sixtine.
Moi, c'est vrai, Jean-Michel Ottoniel, la réalisation de ces jolies boules, c'est un peu loin, c'est à Bâle ou bien à Murano.
Oui, c'est vrai. Mais par contre, son prochain projet sera au château de Versailles, dans les jardins. Et c'est vrai que là, c'est extraordinaire de voir comment l'artiste a réfléchi à son projet quand il me l'a expliqué, quand il m'a montré les chorégraphies du roi Louis XIV et son idée de mélanger à la fois l'histoire et une certaine forme de poésie, mais avec le luxe de Versailles, donc avec des boules de cristal et d'or. J'ai trouvé que c'était politiquement très intéressant.
Et aussi, je trouve, vous êtes un peu prudent, par exemple, sur Jeff Koons. Où est la présence féminine? On voit la présence féminine chez votre grand-père, mais Jeff Koons, on voit la présence féminine qu'au Beaubourg, mais oui. Dans son studio, où est la femme?
Jeff Koons a 7 enfants de plusieurs femmes, donc c'est un homme qui lui aussi a été inspiré par les femmes, mais on ne les voit pas dans son œuvre.
Mais si, quand même.
Sauf la Cicciolina.
Voilà.
Et je pense notamment à la grande salle réservée aux adultes, au centre Pompidou, où là, c'est plus qu'une présence, c'est une confusion entre l'homme et la femme.
Mais c'est l'endroit d'exposition chez Sofitel, quand même. On n'est pas dans le lobby, on est dans une salle quand même assez intime.
Parce que je crois, comme je vous le disais, il y avait l'idée d'avoir des photos différentes, mais complémentaires. Et il fallait tout de même que le public qui passe dans les hôtels ait une sorte de reconnaissance, qu'il n'y ait pas à chercher tout de même à qui est l'artiste. Je pense qu'aujourd'hui, avec une culture générale, on peut rentrer et dire « Tiens, c'est un tableau de Magritte. Ah, tiens, voilà la tête de Magritte, je ne la connaissais pas. » Ou bien « Tiens, voilà Brigitte Bardot à côté de Van Dongen. » Pareil pour Picasso, pareil pour les autres. Un hôtel, c'est ce que je dis, un chez-soi, loin de chez soi. Il y a une forme d'intimité. Donc, il y a une forme différente de vivre l'art. Ce n'est pas comme une galerie d'art. Ce n'est pas comme un musée qui ont des vocations pédagogiques. Là, ici, on a une vocation de reconnaissance. On est en bonne compagnie. Et c'est vrai que lorsqu'il a fallu choisir, 30 œuvres, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, 30 photos. Ça a été tout de même un peu difficile. Certains ont été éliminés.
Bon, vous êtes sévère. Quelque part, ces 30 photos, je pense que c'est un patchwork dans la mémoire de la scène artistique moderne et contemporaine.
Oui, c'est ça. On peut appeler ça un patchwork, une sorte de best-of, on dirait pour, comme pour un disque. C'est-à-dire la réunion de ce que chacun peut reconnaître, vraiment. De se dire, tiens, j'ai une affection naturelle pour l'artiste. D'ailleurs, chacun d'entre eux, ce ne sont pas des artistes qui créent des polémiques. Leur œuvre est reconnue, même pour les plus récents. Donc, il n'y avait pas la volonté de faire découvrir. Vous parlez tout à l'heure de Jean-Michel Autoniel. On aurait pu imaginer Xavier Velland, on aurait pu imaginer Cindy Sherman, Marina Abramovic, par exemple. Mais là, on serait dans une forme de découvrir les artistes.
And to be continued.
And to be continued, oui.
Et il y a une chose... Vous êtes juriste de formation et vous êtes très active dans le monde des affaires. Paradoxalement, vous réalisez des portraits des artistes oui. Pour la télévision. Cette fois-ci, vous montez une exposition des artistes avec leur atelier. Et ces deux mondes, bien sûr, c'est lié, mais comment vous arrivez à traverser d'une chambre à une autre?
Je pense que et quand on est le petit-fils d'un artiste comme Picasso, il faut véritablement renoncer à être artiste soi-même. J'ai tout de même accompli une sorte de création artistique à travers le talent des autres. D'abord en produisant de la musique, puis des émissions de télévision avec des présentateurs ou des journalistes. Et puis à un moment donné, j'ai pu me retrouver dans l'univers des artistes, d'abord par mon grand-père à travers les CD-ROM il y a 15 ans. Et puis, j'ai continué dans la télévision et je suis passé de la télévision de divertissement à la télévision de documentaire. Ce qui est une chance extraordinaire, c'est que sans doute, j'appelle ça l'environnement artistique que j'ai pu recevoir indirectement m'a amené à avoir un peu de sensibilité, mais pour l'art des autres, parce que je considère ne pas en avoir moi-même. Et je crois que le seul talent qu'on peut avoir dans ce domaine, c'est de réunir de bonnes équipes. Car la télévision, par exemple, ou les expositions, ce sont aussi des équipes qui travaillent ensemble.
Mais justement, pour être un juriste, il exige une certaine mécanique très sérieuse, très minutieuse et très prudente. Mais à côté, dans le monde d'art, si vous suivez un artiste dans un atelier, sélectionnez des images, il faut que vous êtes aussi fou comme un artiste que vous vivez dans son environnement. Donc, et comment vous arrivez à la fois à être sérieux et un peu fou comme un artiste?
Eh bien, il faut être Gémeaux. Mon signe astrologique, c'est le Gémeaux. Autrement dit, j'ai beaucoup de plaisir à parler de droit et à faire signer des contrats, y compris aux artistes pour demander leur autorisation. Et puis, de l'autre côté, j'ai ce côté aérien qui me rend disponible et je sais écouter les artistes. Et c'est très plaisant parce que justement, le droit, c'est très carré, c'est très précis, c'est très rigoureux. Un artiste, ça vous permet de relire la réalité, de revoir des choses que vous n'aviez pas vues, grâce à cet œil différent, à cette oreille différente pour un musicien, à cette sensibilité. Donc, j'ai la possibilité, en effet, d'être très sérieux et puis d'être un peu moins sérieux ensuite.
Et quel est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, à la fois chaotique et en ordre?
Le chaordre.
Chaordre,
le
voilà.
Le chaordre, qui est le chaos et l'ordre en même temps. C'est peut-être un peu ce que je fais, mais l'ordre prend le dessus, c'est obligatoire quand on veut parler des autres, quand on veut raconter, par exemple, la vie de Pablo Picasso, il faut tout de même une obligation de vérité. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir fait des recherches, de ne pas avoir fait des vérifications. Et donc, c'est là où ma créativité s'arrête. C'est que je suis obligé d'avoir un devoir de mémoire très précis.
Vous avez l'air un peu atypique par rapport aux autres grandes familles et de grandes fortunes. En France, par exemple, le petit-fils de Lilian Bettencourt, il est babyface pour entrepreneur qui crée sa propre marque. Donc, il y a toujours très linéaire dans l'héritage de carrière. Et vous, vous êtes un petit peu...
Parce que je crois qu'on peut être fils de banquier et banquier soi-même, fils d'industriel et industriel soi-même, mais on peut pas être fils ou petit-fils de Picasso et être Picasso aussi. Là, de ce côté-là, il y a une rupture et ça donne une grande liberté. C'est une chance. Je reconnais ma chance entre, on va dire, la fortune laissée par ce grand-père, mais aussi le nom laissé. Ça donne beaucoup de liberté pour faire d'autres choses. Et c'est ça que j'apprécie chaque jour.
Mais jusque maintenant, jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait un travail, en principe, c'est de fouiller. Donc vous fouillez les artistes de grands noms, soit éditer, réaliser des documentaires, et soit monter les expositions. Donc c'est comme un archéologue pour l'histoire récente. Mais vous ne voulez pas vivre dans quelque chose de vivant au lieu de fouiller dans
alors,
un site?
Si on parle principalement de Pablo Picasso, il faut voir qu'il est présent. Il est mort il y a 40 ans, mais il est présent régulièrement dans l'actualité. Rappelez-vous, il y a encore une semaine, on traitait d'un procès très important dans le sud de la France avec un électricien qui disait que mon grand-père lui avait offert 271 œuvres, y compris des carnets de dessins incroyables, cubistes. Donc, il y avait un procès parce que je pense que cet homme avait ou bien volé ou bien était le receleur. C'est ce que la justice décidera le 20 mars prochain. Et puis une autre fois, ça sera une exposition. Et puis une autre fois, ce sera à cause d'une licence avec une automobile qui porte le nom de Picasso. Donc, c'est un artiste qui est tellement important dans l'histoire de l'art que il est presque un artiste d'actualité. Maintenant, je dois vous dire que j'ai fait déjà beaucoup de recherches archéologiques, comme vous dites, mais j'ai heureusement d'autres projets avec des gens qui sont bien vivants et pas enterrés.
Où se situe? C'est aux États-Unis, en Chine, à Shanghai, à New York?
Je prépare des projets de séries de télévision sur l'art qui m'amènent à parler avec l'art contemporain, avec le vivant, avec demain, avec heureusement qu'il y a cette nouvelle génération parce qu'on s'aperçoit que on n'a pas fini de faire le tour de l'art. Il y a encore des choses à dire, il y aura encore des choses à exprimer et je pense qu'il y a deux grandes idées qui m'intéressent, moi, dans l'art, c'est l'idée elle-même. Il faut qu'il y ait une sorte de politique presque, d'idée politique dans l'art qui nous montre quelque chose d'autre. Et puis il y a l'excellence de la réalisation.
Attendez, quand vous parlez l'idée, c'est ça?
Oui.
Vous parlez de démarche très branchée, de conceptuelle, ou bien vous parlez de la relation avec la société?
Non, je parle de la relation avec la société. Oui, oui, absolument. L'art conceptuel ou, comme vous dites, très branché ou qui est en rapport avec la mode ou l'actualité, c'est pour moi décoratif. Moi, je pense que l'art doit être politique. Autrement dit, il doit y avoir un rapport avec la société, à quelque niveau que ce soit. Ça peut être une réflexion sociale, ça peut être une réflexion politique, ça peut être une réflexion sociologique sur l'homme, sur la femme, sur l'individu dans la société, sur des problèmes ou sur des plaisir d'aujourd'hui, mais ça doit être vraiment lié à la société. Après, il y a la réalisation, et lorsqu'on s'intéresse à Jeff Koons, par exemple, on se dit à quoi? Qu'est-ce que c'est, un immense chien gonflable? Non. Il y a derrière une idée. D'abord, la réalisation est parfaite. On croit que c'est un chien gonflable, mais c'est un métal avec une peinture extraordinaire de perfection. Et on m'explique que peut-être l'idée était pour Jeff Koons, lorsqu'il a divorcé et qu'il ne pouvait plus voir ses enfants qui étaient loin, eh bien de créer des jouets énormes pour qu'il puisse les voir.
Ça, c'est
intéressant parce que, en fait, justement, c'est un détournement chez Jeff Koons et tous ces codes, ce sont des codes populaires.
Oui.
Et ce sont des choses qu'on voit dans le souvenir shop, etc. Mais après, il a détourné avec une exigence excessive de l'excellence.
De l'excellence, c'est comme vous le dites, c'est le nec plus ultra. Il y a aussi beaucoup de malice, car ce qu'on croit être facile, le pop art, hein, parce qu'en fin de compte, Jeff Koons est un enfant du pop art, un enfant d'Andy Warhol. Mais quand on a compris la difficulté du travail d'Andy Warhol, ce n'est pas seulement mettre de la couleur sur une photographie. C'était beaucoup plus compliqué avec des transferts sur des toiles de soie, de la couleur, très compliqué. Et il fallait donc une excellence.
Donc en fait, c'est un mariage entre maître d'art et l'artiste.
Absolument. Je crois qu'on a en effet le retour d'une forme d'excellence entre, comme vous dites, le maître d'art. L'artisan réalise à la perfection. L'artiste apporte le petit plus.
Donc là, c'est le double secret. À la fois, c'est un secret de démarche et là, c'est un secret de fabrication. Quand le double secret se marie, et ça devient quelque chose...
Ça devient ce que j'appelle, moi, une forme de divin. On passe de l'humain au divin. Et l'exposition a voulu aussi montrer un petit peu cette apparente facilité, mais qui ne l'est pas, et qui fait qu'on croit voir un être humain alors qu'on voit déjà un être divin.
La divinité est toujours désirable ?
Oui, parce qu'il y a une forme d'interdit, il y a une limite, il y a une distance.
Donc, l'exposition Revealed, c'est du 13 février jusqu'au 30 mars.
Oui, absolument, avant de partir vers une autre destination.
Merci beaucoup, Olivier Picasso.
Merci. Radio France International.